Chers amis, nous vous souhaitons la bienvenue à cette série d'émissions sur un thème passionnant, la réincarnation, une grâce de la vie, où mène le voyage de mon âme. Cette série reprend le contenu de différents enseignements donnés par la prophétesse instructrice et messagère de Dieu à notre époque. Tous ceux qui se sont penchés sur les textes anciens savent que la réincarnation est une connaissance ancestrale de l'humanité, qu'elle était également présente dans le christianisme des origines, mais qu'elle a été refoulée et combattue avec force et violence par les églises et également supprimée de la Bible. Car la réincarnation signifie aussi être soi-même responsable de sa vie. Pourquoi ? C'est justement ce que nous allons découvrir dans l'émission d'aujourd'hui. Nous allons également aborder les questions suivantes. Pourquoi suis-je né dans cette famille et pas dans une autre? Pourquoi est-ce que je rencontre telle ou telle personne? Est-ce que Dieu est responsable de tout ce qui va mal? Et qu'advient-il de mon âme après la mort? Nous débutons tout de suite par un passage qui répond à la question « Quelle est la véritable origine de l'âme ? » À l'origine, l'âme était un être spirituel pur dans le royaume de Dieu. Cependant, à un moment donné, certains êtres spirituels se détournèrent de Dieu. Ils chutèrent toujours plus bas. Pour prendre une image, on pourrait dire qu'ils s'enfoncèrent dans l'abîme. Cette chute eut donc lieu en raison de leur opposition à Dieu. Certains êtres divins voulurent être omniprésents, c'est-à-dire être comme Dieu. Or, il n'existe qu'un seul Dieu, une seule loi absolue comprenant toute chose. Il n'est donc en fait pas possible de s'opposer à Dieu. Celui qui le fait se livre alors aux effets des causes qu'il engendre, à la récolte de ses semailles.
Que s'est-il passé par la suite ? Ainsi, au cours de ce processus de la chute, les êtres déchus se densifièrent toujours plus. Leur corps spirituel de matière subtile se transforma en un corps plus grossier jusqu'à devenir matière. Dans cet habit matériel qu'est l'être humain, l'âme se trouvant dans le corps physique est liée à la loi de cause à effet, dont les causes sont en réalité créées par elle-même. Aussi longtemps que l'âme incarnée dans le corps physique est soumise à cette loi, elle a pour tâche de réparer le désordre qu'elle a créé dans l'ordre divin en raison de ses fautes. C'est à la fois très logique et tout à fait juste. En effet, on ne peut pas attendre de Dieu qu'il fasse tout simplement disparaître, comme par enchantement, le désordre causé par chaque âme à travers des comportements par trop humains, pécheurs, tels que le prétendent apparemment les théologiens. Cela n'est pas possible, car Dieu a offert la liberté à ses enfants. En relation avec la loi de cause à effet, cette liberté implique que je dois moi-même mettre en ordre le tort que j'ai moi-même causé et le réparer. Si Dieu effaçait tout simplement nos péchés, à quoi cela servirait-il? Si par exemple, il ôtait d'une personne violente ses charges, c'est-à-dire les fautes commises envers d'autres, sans qu'elle en prenne conscience, qu'elle s'en repente et rebrousse chemin, que se passerait-il alors? Deviendrait-elle pour autant pacifique? Sans prise de conscience, elle ne pourrait pas changer. Elle répéterait certainement les mêmes fautes, par exemple des actes de violence. Et si Dieu utilisait sa force pour maintenir à tout prix cette personne dans un comportement pacifique, l'être humain ne serait-il pas alors réduit à une simple marionnette?
Dieu nous a créés en tant qu'êtres libres. Qu'est-ce que cela signifie? Cette liberté que Dieu nous a donnée représente en même temps une grande responsabilité pour notre propre vie. Et les deux, la liberté comme la responsabilité, représentent une menace pour les Églises. Car plus des personnes agissent en toute liberté et prennent la responsabilité de leurs actes, moins il est possible de les dominer. Un nombre croissant de personnes reconnaît que Dieu est un Dieu d'amour et de liberté, qui n'inflige aucune punition, contrairement à ce qui a été enseigné à tort. En fait, chacun prend lui-même la décision de se réincarner, ou bien de suivre consciemment et résolument le chemin du retour dans la maison du Père Céleste. Nous ne sommes donc pas à la merci d'un Dieu arbitraire. Nous décidons nous-mêmes de notre chemin et Dieu est toujours prêt à aider chacun de nous. La damnation éternelle n'existe pas. Poursuivons la lecture de l'enseignement. L'Éternel nous a enseigné les 10 commandements à travers Moïse pour nous permettre de retourner auprès de lui. C'est également dans ce but que son Fils, Jésus, le Christ, est venu sur terre. Il nous a enseigné l'amour de Dieu et le chemin qui ramène à lui, notre Père. Dans son immense amour pour nous, les êtres humains, il nous a apporté la liberté et la lumière. Ainsi, tournons-nous vers le Christ. Allons dans notre temple intérieur pour prier, car chacun de nous est le temple de Dieu. Si nous respectons les commandements de Dieu et les enseignements de Jésus dans notre vie quotidienne, nous n'aurons plus à nous incarner. En effet, nous ne nous réincarnons que si nos péchés nous attirent une nouvelle fois sur terre. Beaucoup de personnes disent que la réincarnation n'est pas un enseignement chrétien. Le texte d'enseignement donne des explications à ce sujet. Mais qu'est-ce qui est chrétien au juste? N'est-ce pas de faire ce que Jésus nous a enseigné? Par contre, ne pas accomplir son enseignement, par exemple son sermon sur la montagne ou les 10 commandements de Dieu donnés à travers Moïse, cela n'est pas chrétien. Ce comportement est pécheur et en agissant ainsi, nous créons des charges. Où vont ces charges? Elles s'enregistrent dans notre âme et tissent en conséquence les habits de notre conscience. On peut comparer les particules du corps spirituel pur à des perles qui rayonnent. Par des pensées et des actes négatifs, l'être humain assombrit ses perles spirituelles dans son âme. Il abaisse leurs vibrations.
Et que se passe-t-il après la mort du corps physique? Progressivement, au moment de la mort, l'âme se retire du corps physique et emporte dans l'au-delà les habits sombres, chargés, qui recouvrent sa conscience. Il s'agit des forces spirituelles de la conscience qui ont été dégradées. L'âme est alors entourée, enveloppée de ce fluide. Au moment de la réincarnation, ce que notre âme irradie dans le corps n'est alors pas la lumière pure, mais le contenu de ces enveloppes chargées. On pourrait parler de substances toxiques provenant de nos incarnations antérieures. Ces substances toxiques, telles des perles alourdies, dégradées, agissent en conséquence sur notre corps, nous imprègnent et par la suite, elles influencent une nouvelle fois notre monde de pensée et tout notre comportement ici-bas. Mais les choses peuvent se dérouler d'une toute autre façon. Nous poursuivons la lecture. En effet, si nous vivons en respectant les commandements de Dieu et les enseignements de Jésus, le Christ, nous n'aurons plus à nous réincarner. Les perles dégradées seront redevenues pures, car nous aurons cheminé vers la maison de notre Père céleste. Dieu n'a pas créé la réincarnation. C'est nous-mêmes qui l'avons créée en salissant notre âme. Nous avons chargé nos particules célestes de nos aspects pécheurs. Nous nous sommes plongés dans le monde des ombres de notre moi humain au lieu de nous diriger vers la lumière. Encore une fois, il n'est pas dans la volonté de Dieu qu'une âme s'incarne de nombreuses fois. Au contraire, sa volonté est que l'être humain purifie suffisamment son âme et son corps au cours de cette vie terrestre, donc ici et maintenant, pour que d'autres incarnations ne soient pas nécessaires. Gardons à l'esprit que ce n'est pas Dieu qui a créé la roue de la réincarnation, mais bien nous, les êtres humains. Dieu, notre Père céleste, qui est l'amour, n'a d'autre souhait que de nous avoir à nouveau auprès de lui, nous, ses enfants.
Voici une question que vous vous êtes peut-être déjà posée, chers téléspectateurs, chers amis. Pourquoi suis-je venue au monde précisément dans cette famille où j'ai grandi? La loi éternelle nous enseigne qu'au moment de la conception d'un enfant, une âme se trouvant dans l'au-delà se rapproche peu à peu de l'embryon. Nous savons aussi que tout est énergie et que ce qui se ressemble s'assemble. Ainsi, les futurs parents attirent une âme qui correspond à leur vibration. Dans la plupart des cas, cela signifie que l'enfant et les parents ont quelque chose à mettre en ordre ensemble. Les parents ont donc une grande responsabilité envers leurs enfants. Il est essentiel qu'ils sachent qu'ils attireront ou ont attiré un enfant qui correspond à leur gène. L'âme de l'enfant qui va s'incarner porte dans sa structure particulière des aspects semblables à ceux qui se trouvent dans les gènes de ses parents. C'est justement à cause de cette similitude qu'elle s'incarne précisément parmi ces personnes qui vont devenir maintenant ses parents. Il se peut, par exemple, qu'au cours d'une incarnation antérieure, l'enfant ait été la mère ou le père de ceux qui sont maintenant ses parents, et qu'ensemble, ils aient créé des causes qui les lient encore karmiquement les uns aux autres. Ils ont maintenant la possibilité de dissoudre ensemble ces liens, aujourd'hui, dans cette vie. Lorsque le père, la mère et l'enfant y parviennent, il est alors possible à l'enfant de suivre ensuite son propre chemin. Nous nous incarnons donc dans une famille bien précise pour mettre en ordre certaines choses, nous libérer de ces charges, purifier notre âme selon l'enseignement de la vie, afin que chacun puisse le plus tôt possible poursuivre librement son propre chemin vers la maison du Père céleste. Là encore, on voit combien de souffrances auraient pu être épargnées si la caste des prêtres n'avait pas occulté l'enseignement de la réincarnation. Car beaucoup de gens souffrent, parfois toute leur vie, de situations familiales non résolues.
Poursuivons la lecture. Si les parents étaient en effet conscients de ces liens de causalité, cela changerait complètement leur relation avec leurs enfants et leur permettrait certainement de les élever de façon tout à fait différente. Ils auraient en effet conscience d'avoir été conduits les uns vers les autres par des aspects semblables pour résoudre ensemble différentes choses. Sur cette base pourrait naître un concept éducatif apportant une forme de soulagement, d'apaisement, aussi bien aux parents qu'aux enfants, car ils pourraient ainsi se défaire de tout ce qui s'est passé au cours d'incarnations antérieures. Leur âme deviendrait plus lumineuse, ils se sentiraient intérieurement plus libres, et il le serait alors plus facile de se décider à accomplir le prochain pas sur le chemin menant à l'éternité. La réincarnation n'est pas basée sur la contrainte, mais sur le libre arbitre de l'âme. Plus une âme est chargée de fautes, plus elle aspire à se réincarner, à retourner dans un corps humain. Plus une âme met à profit son incarnation pour devenir lumineuse, moins elle souhaite se réincarner après la mort. Au contraire, elle met tout en œuvre pour retourner le plus rapidement possible dans l'éternité vers Dieu.
Peut-être que certains se posent aussi cette question. Et qu'en est-il des autres personnes que nous rencontrons au cours de notre vie ? Ces explications sur les relations entre parents et enfants sont également valables pour toutes les autres rencontres que nous faisons sur Terre. C'est sans aucun doute un aspect essentiel de l'enseignement de la réincarnation. Nos rencontres ne sont pas dues au hasard. Que cela soit dans la famille, sur notre lieu de travail, là où nous habitons, dans le club de sport que nous fréquentons ou partout ailleurs. Si nous nous disputons avec notre voisin, si nous nous entendons mieux avec certains collègues qu'avec d'autres, rien de cela n'est le fruit du hasard. Il est probable que nous nous rencontrions à nouveau maintenant afin de saisir cette occasion pour régler certaines choses datant d'incarnations passées. Et comment y parvenir ? Tout d'abord en prenant au sérieux notre prochain. Par exemple, en écoutant vraiment ce qu'il veut nous dire et, avant tout, en nous pardonnant mutuellement. Le seul fait de prendre en considération que l'antipathie particulière que j'éprouve envers quelqu'un n'est pas forcément due à un comportement désagréable que celui-ci aurait actuellement, mais que cette antipathie était déjà en moi, venant d'autres incarnations, me donne d'emblée la possibilité de faire plus facilement la paix avec mon prochain et de mieux m'entendre avec lui. Plus je cherche sérieusement et sincèrement ma part de responsabilité dans les situations qui m'arrivent, plus je me rends compte qu'en fait, j'ai déjà moi-même tracé le cours de nombreux événements de ma vie lors d'incarnations précédentes. Il ne s'agit pas forcément d'une situation tout à fait identique, mais de comportements négatifs similaires avec lesquels j'ai causé du tort à mon prochain. Ceci est également valable au niveau de populations ou de peuples entiers qui se combattent. Certains grands conflits historiques, comme celui qui, par exemple, oppose régulièrement l'islam et le christianisme, sont peut-être dus à des luttes ancestrales et à des personnes qui, déjà par le passé, ont participé à ces conflits et se retrouvent aujourd'hui, à nouveau face à face. Une réflexion. Si les gouvernants tenaient compte de cet aspect dans les relations diplomatiques, n'y aurait-il pas plus de paix dans le monde ? Combien de guerres auraient pu être évitées ? Et combien de souffrances et de misères pour des millions d'êtres humains et pour l'ensemble de la nature pourrait-on aujourd'hui encore éviter ? Et qui porte la responsabilité de tout cela ?
Reprenons maintenant la lecture des explications. La connaissance de la réincarnation nous aide également à ne pas rejeter trop facilement la faute sur les autres et à leur reprocher d'être mauvais et méchants. Elle nous permet de penser qu'il existe peut-être des causes remontant à bien plus loin que notre vie actuelle. L'être humain moderne sait qu'aucune énergie ne se perd, ce qui pourrait l'aider à comprendre le principe de la réincarnation. En effet, pourquoi les énergies, que sont les pensées et les sensations, ne seraient-elles pas soumises à cette loi de la physique ? Nos sentiments, pensées, paroles et actes s'évanouiraient-ils tout simplement dans le néant ? Ce n'est pas ce que prévoit la loi de Dieu. Si nous prenons en compte qu'une grande partie de ce qui nous arrive a son origine dans des incarnations antérieures, nous verrons Dieu sous une toute autre lumière. Nous ne l'accuserons plus aussi facilement des injustices dont nous sommes l'objet, en lui reprochant que cela nous arrive justement à nous. Nous nous demanderons plutôt si les difficultés et problèmes rencontrés ne sont pas en relation avec des énergies négatives que nous avons émises par le passé et qui reviennent maintenant vers nous. Si nous avons compris ces liens de causalité, nous n'accuserons plus Dieu. La conception d'un Dieu arbitraire et vengeur, véhiculée par le message des églises institutionnelles et conduisant de nombreux prêtres à faire de Dieu l'auteur des grands malheurs qui surviennent, disparaît dès lors que nous prenons conscience que nous avons la possibilité de revenir plusieurs fois sur terre afin d'apprendre et que nous avons nous-mêmes forgé le coup du destin qui nous arrive. Cela ne signifie pas pour autant que nous puissions interpréter les problèmes et les coups du destin qui frappent nos prochains, voire même les montrer du doigt avec arrogance, car après tout, ils ont eux-mêmes causé ce qui leur arrive. Ce comportement ne ferait qu'accroître davantage nos charges. En outre, personne ne sait ce qu'il l'attend encore lui-même.
Lors de cet enseignement, il a également été question de l'image de Dieu véhiculée par les églises dont nous venons de parler. Le Dieu vengeur est le Dieu des églises, mais pas le Dieu de l'univers, le Dieu d'amour. Si nous voyons Dieu comme un Dieu vengeur, l'Église peut alors exercer un pouvoir sur nous. Par contre, si nous nous tournons vers le Dieu d'amour, nous nous tournons vers notre Père, tel que l'exprime la prière de tous les chrétiens, le Notre Père. Nous ne remettrons alors plus notre vie entre les mains d'un quelconque être humain ou d'une institution ecclésiastique, mais nous nous tournerons vers Dieu en nous, vers un Père qui nous aime, ainsi que vers le Rédempteur, le Christ, qui nous aide à trouver le chemin qui ramène à la maison du Père éternel. Savoir que ce que nous traversons actuellement vient d'incarnations antérieures a encore d'autres bons côtés. Nous pouvons en effet comprendre que ces situations nous offrent la chance de purifier notre âme et de retourner ensuite, après cette vie terrestre, à la maison du Père, dans le royaume de lumière dont notre âme est originaire. Il nous est alors beaucoup plus facile d'accepter ce qui nous arrive.
Nous poursuivons la lecture. Accepter son destin, autrement dit, ne pas rendre les autres responsables de ce qui nous arrive, ne veut pas dire pour autant se résigner et baisser les bras. Notre destin n'est jamais définitivement scellé. La vie ne connaît pas d'arrêt. Dieu souhaite que nous suivions ses commandements, ses lois, afin que nous allions bien. Dès que nous nous tournons vers lui et nous efforçons de vivre toujours plus selon ses commandements, notre destin peut prendre un tout autre cours, dans la mesure où cela est bon pour notre âme. Bien sûr, parfois nous luttons intérieurement. Nous nous rebellons contre notre destin. Nous sommes des êtres humains, autrement dit, imparfaits. Même lorsque nous savons que nous avons nous-mêmes causé ce qui nous arrive, notre première réaction est de nous rebeller. Cependant, la connaissance des interactions spirituelles nous fait comprendre qu'avec l'aide du Christ, nous pouvons régler, mettre en ordre les causes de notre souffrance et libérer ainsi notre âme afin de retourner dans la lumière en tant qu'être parfait, lumineux, joyeux et en bonne santé.
Et si nous le faisons, comment nous sentons-nous alors? Gabriel explique ce qui suit. Tout à coup, nous sommes en mesure de voir plus en profondeur. Nous saisissons le contenu réel des paroles de notre prochain et pouvons ainsi l'aider. La perception de nos sens s'affine. Elle devient de plus en plus lumineuse et libre, que ce soit au niveau de l'odorat, du goût, du toucher ou des autres sens. Le monde de nos sens s'ouvre et nous ressentons toujours davantage qu'il y a en nous un être lumineux appelé âme, qui respire toujours plus profondément, librement, et qui donne à l'être humain, l'enveloppe de l'âme, des impulsions, comme par exemple « Rappelle-toi chaque jour ce qui suit. Mets en ordre tes aspects humains, les aspects pécheurs que la journée te montre, et prends la main du Christ de Dieu pour retourner à la maison du Père. Avance pas à pas avec lui, en accomplissant ce que Dieu veut et non ce que d'autres veulent, comme par exemple l'Église. C'est cela la liberté, la vie à laquelle nous devrions aspirer. Mais qu'est-ce que la vie en réalité? La vie a-t-elle une naissance? A-t-elle une mort? La vie, c'est Dieu. Dieu est éternel et nous, la vie en Dieu, nous sommes également éternels. La vie, c'est donc Dieu. Personne ne peut nous la prendre, car le Christ de Dieu est le chemin, la vérité et la vie. Si le Christ, dans le Tout-Puissant, est la vie, alors qui pourrait nous la prendre? Chers amis, c'est sur ces paroles fortes et encourageantes que nous vous quittons pour aujourd'hui. Dans la prochaine partie de cette série, nous en apprendrons davantage sur la purification de l'âme. Comment pouvons-nous concrètement reconnaître et résoudre les charges de notre âme afin de retourner à notre origine divine, le royaume de Dieu, l'existence éternelle. D'ici là, au revoir et une chaleureuse salutation en Dieu.